Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
L'info en Bretagne ce matin, et on va parler de l'eau. Cet été 2022 aura été celui de tous les records en matière de température. La succession des canicules à un moment où les nappes phréatiques sont au plus bas a entraîné des restrictions d'eau dans quasiment l'ensemble des régions françaises. Même la Bretagne, qu'on croyait à l'abri des fortes chaleurs et du manque d'eau, n'a pas échappé à ces canicules liées au dérèglement climatique. L'eau que l'on pensait source inépuisable a manqué cet été. La manifestation la plus visible de ce phénomène s'est traduite par le niveau alarmant des cours d'eau, parmi lesquels des fleuves comme la Loire. Depuis 1969, l'association Eau et Rivières de Bretagne se préoccupe de l'eau et en particulier de sa qualité. Nous en parlons ce matin de l'eau avec Pauline Pénaubert. Elle est chargée de mission sur les questions de la ressource en eau à Eau et Rivières de Bretagne. Elle est avec nous en direct ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va manquer d'eau, c'est ça le message finalement?
Alors, on en manque déjà, on en a déjà manqué dans le passé. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bretagne, en fait, on n'est pas du tout une région qui n'est pas touchée par les sécheresses, parce qu'il y a plusieurs paramètres. C'est pas juste une question de chaleur, la sécheresse, c'est aussi une question de la ressource en eau. Et en Bretagne, on prélève 3/4 de notre eau potable dans nos rivières et dans nos retenues. Contrairement au reste de la France, on prélève 3/4 de notre eau potable dans les nappes souterraines. Donc en fait, dès qu'il pleut peu, en Bretagne, on est très vite touché par des manques d'eau. Et à ça, il faut associer plein d'autres éléments qui viennent aggraver la situation, qui est qu'il pleut beaucoup plus à l'ouest qu'à l'est. Par exemple, sur Rennes, on a des pluviométries de moins de 600 mm par an, ce qui en fait un des territoires de France les plus secs. Et on va avoir, en plus de la région Bretagne, seulement un tiers de ces cours d'eau qui sont en bon état. Et donc, ils sont donc forcément plus fragiles face aux situations de dégradation. Et ça veut dire qu'on ne peut pas prélever de l'eau partout. On a d'ailleurs plein de captages qui ont été déjà fermés dans le passé.
Quand vous dites que les cours d'eau sont parfois en mauvais état, ça veut dire que l'eau n'est plus potable, qu'elle est polluée?
C'est-à-dire que l'eau est polluée, mais aussi dégradée dans son fonctionnement. On le voit notamment, ça va être des cours d'eau qui sont tout droits. Et on le constate aussi, par exemple, là, à chaque fois qu'il y a des orages, qu'est-ce qui se passe? On constate quasiment immédiatement des grandes inondations dans les villes. Donc là, c'est vraiment, c'est une réalité qu'on voit de l'état dégradé des cours d'eau. Normalement, quand il y a un petit orage, un cours d'eau qui est en bon état, il est capable d'absorber cette petite crue. Et là, ces cours d'eau dégradés ne le sont plus du tout.
Qu'est-ce que c'est un cours d'eau en mauvais état, un cours d'eau dégradé? C'est un cours d'eau que l'on a modifié, auquel on a enlevé peut-être des berges, des arbres?
Ça peut être ça, ça peut être c'est le bocage qu'on a détruit, c'est les zones qu'on a détruit, c'est l'artificialisation des terres, c'est les pesticides, les nitrates, c'est tout ça qui dégrade les cours d'eau en Bretagne et en France.
Et est-ce qu'on prélève plus d'eau en Bretagne que dans d'autres régions?
On ne prélève pas plus d'eau, mais on prélève plus d'eau en surface. En France, on prélève surtout l'eau dans nos rivières souterraines, dans nos nappes souterraines, et en Bretagne, on prélève essentiellement dans nos rivières. Et c'est pour ça qu'en fait, la Bretagne est très fragile face aux sécheresses. Elle sera de plus en plus.
Alors, on pointe souvent l'industrie agroalimentaire, on pointe souvent l'industrie tout court, les agriculteurs aussi. Il ne s'agit pas là de faire de l'agribashing, évidemment, qui sont consommateurs d'eau. Et puis, il y a le simple particulier qui lave sa voiture. Est-ce qu'il va falloir changer à terme nos façons de vivre, nos façons aussi de consommer, mais aussi peut-être adapter l'industrie, adapter l'agriculture à ce manque d'eau?
Alors, on a tous besoin, en effet, de changer notre rapport à la consommation d'eau. C'est pas juste le consommateur particulier qui doit arrêter de prendre des bains plutôt que des douches, et prendre plutôt des douches. C'est vraiment un changement de fonctionnement et de notre rapport à la ressource en eau qui est nécessaire. Et donc oui, par exemple, pour les industriels, ça va être revoir les process industriels pour consommer moins d'eau. C'est pour l'agriculture, c'est par exemple c'est de l'élevage moins intensif qui va être moins consommateur d'eau. Ça va être pas d'irrigation sur les terres. Il y a par exemple avoir des plantes qui sont adaptées à des périodes de sécheresse importantes. Il y a tout un ensemble de solutions. Aujourd'hui, elles sont disponibles, on les connaît. Et il faut juste maintenant avoir le courage politique de les mettre en œuvre.
Alors finalement, c'est la politique qui bloque ces changements possibles par rapport à la consommation d'eau?
Pour nous, c'est un courage de nos élus et de nos préfets. C'est ne pas, par exemple, accueillir de nouvelles industries, comme c'est le cas à l'IFRI, le projet Bridor qui va consommer 187 mm3 d'eau chaque année, alors qu'on est sur un territoire où, aujourd'hui, en Ille-et-Vilaine, on a des risques de barrages d'eau potable qui soient à sec. Donc, des risques de centaines de milliers de personnes qui n'aient plus d'eau potable. C'est vraiment des choix de gestion de l'avenir qu'on doit avoir le courage de prendre aujourd'hui et qui aujourd'hui ne sont pas faits.
On le disait à l'instant, la Bretagne est aussi terre agricole. Est-ce que c'est facile de parler avec les acteurs, justement, et je pense aux agriculteurs, aux représentants syndicaux de l'agriculture, pour essayer bien de faire changer les mentalités, de faire changer aussi peut-être la façon d'appréhender l'eau et la terre ?
Parler entre acteurs, c'est pas un souci. En Bretagne, ça fait longtemps que les acteurs, on parle ensemble autour des instances publiques. La question, en moment, c'est d'avoir les changements qui accompagnent ces discussions. Et pour ça, pour nous, par exemple, ça se passe au niveau de la PAC. Tant que la PAC, elle n'aidera pas l'agriculture à aller vers des systèmes, qu'elle ne soutiendra pas financièrement les systèmes à la hauteur des enjeux de la bio, des systèmes peu consommateurs d'eau, eh ben, ces changements, ils ne pourront pas se faire.
Alors il y a la question aussi des algues vertes qui revient de façon récurrente. Alors là aussi, il ne s'agit pas de pointer du doigt un tel ou un tel autre, mais on s'aperçoit qu'on n'en sort pas finalement de cette histoire des algues vertes et par là même de cette pollution de l'eau et de nos littoraux. Est-ce que là aussi vous trouvez que, ou en tout cas à Haute-Rivière de Bretagne, vous trouvez que ça ne va pas assez vite, qu'il n'y a pas une politique assez volontariste ?
Ah bah oui, très clairement. Hein. Et d'ailleurs ça a été confirmé par les jugements avec la condamnation de l'État pour une application des directives nitrates, encore récemment pour le plan régional nitrates. Mm-hmm. Et en 2021, l'État a été condamné pour son manque d'ambition. Donc c'est pas juste nous qui constatons le peu d'ambition de ces politiques-là. Et en plus, les conséquences, elles se font sentir pour tout le monde, hein, parce que le prix de la pollution des algues vertes, c'est la fermeture des captages. Et on voit bien aujourd'hui, dans une situation de sécheresse, qu'on a besoin vraiment d'avoir une multitude de captages si on veut passer ces périodes de manque d'eau.
On dit que cet été 2022 est le plus frais de ceux qui vont advenir, ce qui n'est pas spécialement rassurant. Est-ce qu'on peut avoir quand même l'espoir de ne pas avoir de coupure d'eau et pouvoir quelque part arriver à demander à tout le monde de faire un effort ou pour vous, ça va être très compliqué ?
Si tout le monde arrive à faire un effort et si on change notre rapport à l'eau, nous ne pensons pas qu'en Bretagne, on devra faire face à des coupures régulières de l'eau. On ne peut pas l'exclure, hein. Ça reste une possibilité malheureusement. Mais c'est vraiment que si l'ensemble des acteurs acceptent de consommer moins d'eau, et ça veut dire changer notre système agro-industriel, ça veut dire pour le consommateur changer sa consommation d'eau, ça veut dire faire beaucoup moins de piscines. Hein. Un endroit de France qu'on fait beaucoup de piscines, quand on sait que on a des risques de coupure d'eau, ça interroge le nombre de piscines sur un territoire où en plus on a la mer à proximité.
On voit aussi une inégalité entre les territoires. Vous citiez l'exemple de Rennes tout à l'heure, qui est un secteur très sec, l'Ille-et-Vilaine d'ailleurs en règle générale. On voit aussi que l'eau qui alimente Rennes vient aussi en partie des Côtes d'Armor. Est-ce que ça risque pas de faire un déséquilibre sur les territoires ruraux qui vont devoir finalement fournir de l'eau aux métropoles ? Est-ce que là aussi il y a une politique d'aménagement du territoire qui va être à penser ?
Alors ça, heureusement, c'est déjà fait. Ça, clairement, notamment en Ille-et-Vilaine, le partage de la ressource en eau, et on l'a vu pendant cette période de sécheresse, on l'a vu dans les comités qui gèrent ces sécheresses, qui s'appellent les comités de gestion de la ressource en eau, ou en rivière siège, le partage de la ressource entre les territoires se fait. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs qui produisent de l'eau et qui ont besoin de l'eau sont autour de la table, et on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. Et c'est ce qui se fait depuis pour l'Ille-et-Vilaine, depuis le mois d'avril. Donc notamment entre les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, le partage de la ressource est fait et c'est pas il faut pas croire que justement il y a des territoires qui manquent au profit des territoires métropolitains ou des territoires touristiques. Au contraire, mon opinion, c'est plutôt un sujet sur lequel on est satisfait, hein, le partage de ressources et l'interconnexion se fait. Par contre, pour nous, ce qu'on voit arriver aujourd'hui à la fin de l'été, c'est que le partage de ressources se fait, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et que donc c'est vraiment en période de grand stress et comment on fait face aux périodes de plus grande défaillance. Quelles sont les solutions qu'on choisit de mettre en œuvre et quel courage en politique on a pour les appliquer, notamment sur le contrôle et sur les baisses de consommation pour les industriels, par exemple.
On va devoir se quitter parce qu'on a dépassé un tout petit peu le temps. Je voulais quand même juste, Pauline Pénobert, que vous nous disiez en quelques mots ce qu'est Eau et Rivières de Bretagne. Quel est le rôle de cette association ?
Eau et Rivières de Bretagne, c'est une association régionale de protection de l'environnement et des milieux aquatiques et du consommateur. Donc notre objectif, c'est vraiment aujourd'hui de changer la société pour faire face notamment aux effets du changement climatique.
Voilà, on va se quitter là-dessus. Pauline Pénobert, je rappelle que vous êtes chargée de mission sur les questions de la ressource en eau à l'association Eau et Rivières de Bretagne et vous étiez en direct avec nous ce matin. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.